La fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans la fabrique politique. Merci d'être avec nous pour cette séquence bimensuelle de découverte de la mécanique du contrat social, le grand qui fait quoi de notre machine démocratique, parfois si belle et parfois obscure. Aujourd'hui, on oublie les grands thèmes de l'action publique, la santé, l'armée, l'emploi. On délaisse aussi les institutions, les mairies, ministères et autres conseils d'État. On s'intéresse à vous, à nous, simples citoyennes et citoyens, habitantes et habitants du monde. Depuis quelques années, deux idées à première vue contradictoires occupent une place importante dans les débats publics. La première veut qu'une part croissante du peuple s'éloigne de la chose publique, se méfie de la classe politique, boude le vote et se carapate dans sa petite sphère privée, en se fichant bien du reste. Et la seconde veut qu'aux côtés de la démocratie représentative, celle des élus de la République, à qui l'on confie nos destinées communes, se développe une vitalité républicaine nouvelle, la démocratie participative, un grand concept générique pour désigner toutes les formes d'engagement citoyen dans la vie publique. Ces dernières années, on ne trouve plus un parti, plus un responsable politique qui ne se pose pas en défenseur acharné de cette grande mobilisation de tous pour tout le monde, comme en témoigne cette archive de 2015, trouvée sur France Info.
Demander leur avis aux Français. Dans les urnes ou via Internet, les partis ont de plus en plus recours à ces consultations. Cette semaine, au Parti Socialiste comme chez les Républicains, on affirme s'en remettre à la sagesse populaire. Nicolas Sarkozy demande ainsi à ses adhérents de valider son programme en matière d'immigration.
Quand on donne la parole au peuple de France, il est responsable. Et il est raisonnable.
Le patron des socialistes annonce lui une consultation des Français avant les régionales. Objectif, imposer l'unité à ses partenaires.
Nous lançons un appel aux hommes et aux femmes de gauche. Aidez-nous à réaliser l'unité.
Le PS promet des urnes sur tous les marchés de France à la mi-octobre. Une proposition qui, aujourd'hui à Lille, suscite des réactions très partagées.
Je pense que c'est hyper intéressant de faire des référendums et qu'on n'en fait pas assez.
C'est peut-être un effet d'annonce, tout à fait, mais dans l'idée, oui, c'est intéressant. Ouais.
N'importe qui va pouvoir voter, même trois fois, quatre fois, enfin, ça n'a pas de sens.
C'est Ségolène Royal qui, la première, promeut la démocratie participative lors de sa campagne présidentielle. En 2011, les socialistes organisent des primaires pour désigner leurs candidats. L'an prochain, ce sera le tour des Républicains. Avec ces consultations, les partis espèrent aussi redorer leur blason.
Les partis aujourd'hui en France connaissent un problème dramatique de légitimité. Ce sont de petits appareils repliés sur eux, extrêmement peu nombreux. On estime aujourd'hui à peu près en France qu'il n'y a même pas 2 électeurs sur 100 qui appartiennent aux partis. Donc ces partis cherchent à tout prix à rebondir.
Ces consultations ne rencontrent pas toujours un grand succès. Cette semaine, moins du tiers des adhérents des Républicains a voté.
Quand on parle de démocratie participative, qu'est-ce que ça veut dire? Qui s'y engage? Qui en sont les acteurs? Sous quelle forme peut-on la dénicher au coin de la rue, cette fameuse participation des citoyennes et des citoyens lambda? Comment est-ce accepté par les élus et les professionnels de la politique? Et puis, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on en voit parfois les résultats? Nous allons parler de tout cela avec notre invité, Manu Bodinier, qui est fondateur de l'association Equitas, une association qui expérimente des actions politiques et poétiques, qui développe le pouvoir d'agir de personnes qui vivent dans des situations d'inégalité. Bonjour Manu Bodinier.
Bonjour.
Alors, on pourrait se lancer avec vous dans des heures de théorie, de concepts. Il y a toute une littérature maintenant sur ces aspects d'analyse de la démocratie participative sous toutes ses formes. Pour nos auditeurs, je vous propose plutôt de démarrer par un exemple, une action concrète que mène votre association Equitas et qui s'appelle le Parlement libre des jeunes. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment l'idée est venue et puis en quoi ça consiste?
L'idée est venue d'un constat, du fait que aujourd'hui, peu de jeunes, notamment de quartiers populaires, prennent la parole, sont représentés en politique. Et donc, on voulait créer un espace, une action pour que des jeunes qu'on n'entend pas d'habitude puissent exprimer leur avis et participer à la définition des règles du jeu de notre société.
Mmh. Et alors, comment ça se passe? Qui fait quoi, finalement, dans un Parlement libre des jeunes? Comment se répartissent les rôles et qu'est-ce qu'on demande aux participants?
En fait, le Parlement se réunit d'un point de vue formel une fois par an. En Rhône-Alpes, c'est le week-end dans 10 jours, le 1 et 2 décembre. Mmh. On réunit une centaine de jeunes qui sont issus de quartiers populaires, mais aussi dans d'autres situations, qui sont en foyer de jeunes travailleurs, qui sont sans abri, qui sont réfugiés, qui sont des fois aussi homosexuels ou transsexuels et qui se retrouvent rejetés. Mmh. Et on part des rêves et des colères des jeunes et on essaye d'aboutir à des propositions qui peuvent changer concrètement leur vie. Ça peut être comment est-ce que eux arrivent à faire des CV qui ressemblent à leur vie, par exemple, puisqu'ils n'ont souvent pas d'expérience pour trouver un boulot, ou à des propositions qui pourraient être reprises par des institutions pour qu'elles modifient un petit peu leur manière d'inclure les jeunes dans la démocratie, dans les questions de logement, dans les questions d'emploi. Et donc, on fait tout ce parcours-là. Il n'y a pas de programme préétabli. Et les animateurs du Parlement, qui sont issus d'Equitas, mais aussi d'autres associations comme les centres sociaux, les foyers de jeunes travailleurs ou le NRJC, sont là au service de cette dynamique.
D'accord. Il y a quand même, l'objectif, c'est quand même de produire, vous disiez, de produire ensemble quelque chose, comme par exemple des propositions, et éventuellement ensuite de les adresser à des institutions. Il y a quelque chose de l'ordre de sortir avec quelque chose qu'on pourra aller porter ailleurs.
Oui, c'est un bout. Et comme c'est un bout qui est long, souvent puisque le temps des institutions n'est pas du tout celui des citoyens, c'est pas le seul objectif des parlements libres.
D'accord.
Il y a aussi un objectif de permettre à ces jeunes-là de prendre conscience qu'ils ont encore du pouvoir sur leur vie, ici et maintenant. Ne serait-ce qu'en rencontrant des jeunes qu'ils voient jamais. Des jeunes qui habitent aujourd'hui dans la campagne de la Drôme et des jeunes qui vivent à Vénissieux et d'essayer de commencer à entamer un dialogue avec une personnalité. Donc la première année, on avait invité Christiane Taubira et depuis, on invite des personnalités plutôt locales pour Rhône-Alpes. Mais on a développé des parlements libres dans d'autres régions. Il y en a en Île-de-France, il y en a en Nord-Pas-de-Calais, il y en a en Bretagne, en Poitou-Charentes, etc. Et l'objectif, c'est de pouvoir porter à la fin des parlements ces propositions, mais pas au nom des jeunes, que ce soit les jeunes eux-mêmes, donc des jeunes adultes de 18 à 30 ans,
qui
les portent eux-mêmes collectivement, soit d'un point de vue local, soit d'un point de vue régional ou bientôt national.
D'accord. On va se pencher sur cette question dans un instant. Je reviens sur l'idée qu'effectivement, il se passe des choses ici et maintenant, dans les parlements libres des jeunes, et que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous auriez un exemple, une illustration d'une séquence qui vous aurait particulièrement marqué et qui s'est passée pendant un parlement libre des jeunes ?
Ouais, je me rappelle par exemple d'une discussion qu'on avait eue avec un groupe de jeunes gars un peu caricaturaux dans leur posture à refuser un peu tout ce qui existe et avoir une posture de défiance très importante vis-à-vis des institutions. Le thème qui avait été choisi par eux, c'était les violences policières, la discrimination, le contrôle aux faciès, et ce qui s'ensuit. Et à un moment, je leur demande s'ils sont contre en fait l'existence de la police. Et petit à petit, ils se mettent à dire, pour deux d'entre eux, qu'en fait, non, ils aimeraient bien, quoi. Même, ils aimeraient bien être policiers.
Ah ouais.
Et je trouvais ça assez intéressant, le déplacement d'une posture de défiance à une posture qui est, peut-être que j'aimerais, mais en fait, aujourd'hui, je suis pas fait pour, j'ai pas réussi ma scolarité. Et petit à petit, on est arrivé à une proposition qui était d'écrire un guide sur les droits des jeunes avec la police. Donc, qu'on a écrit avec un magistrat après le Parlement, qu'on a diffusé dans tous les centres sociaux et tous les foyers de jeunes travailleurs de la région. Mais ces jeunes-là, dans ce Parlement-là, finalement, se sont aperçus que la police, la gendarmerie, c'est pas les autres. C'est en partie eux aussi. Et que finalement, les institutions ne sont pas représentées que par d'autres personnes plus vieilles.
C'est pas eux et nous, c'est aussi nous, quoi.
Voilà, c'est qu'il y a ce déplacement-là, et je pense que c'est un des apprentissages des parlements libres, c'est d'arriver à casser ces frontières qui sont construites artificiellement entre les jeunes, d'une part, mais aussi entre les jeunes et le reste de la société.
Ok. Sinon, ouais, la question que je me posais, c'était par rapport donc à ces institutions, on parlait tout à l'heure de porter que les jeunes portent eux-mêmes une parole. Ça marche ? Il y a des institutions qui sont à l'écoute ? Vous en avez trouvé qui acceptent d'entendre cette parole-là et d'accueillir et d'écouter ce que ces jeunes-là ont à dire ? Vous avez des expériences réussies en la matière ?
En fait, ce qui marche, c'est de toucher des individus qui sont dans des institutions. On a des élus, mais aussi des chefs d'entreprise ou des responsables associatifs qui sont vraiment intéressés pour venir dans cet espace-là, entendre des jeunes qu'on n'entend pas d'habitude, les entendre sans violence. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est plus rare, c'est de trouver des institutions qui se reconfigurent, qui se transforment pour intégrer cette parole au quotidien, ou pouvoir inclure des habitants dans le mode de fonctionnement. Mais ça existe. Il y a des institutions et des collectivités qui cherchent à changer, comme Grenoble, comme Paris aussi. On n'est pas au bout du chemin sur la transformation de ces institutions-là. Est-ce que ça va mieux sur le son ?
Non. Si vous arrivez à parler directement dans le téléphone, je ne sais pas...
Je parle dans le micro.
Ouais, bon, non mais ça va aller, on va s'en sortir. On va revenir sur cette question des pouvoirs publics dans quelques instants. Avant cela, il y avait une question qui me préoccupait aussi, qui était cette idée de faire appel directement à la population, aux jeunes et moins jeunes, aux citoyennes, aux citoyens, se pose la question d'existence, déjà, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, alors c'est-à-dire les syndicats, les associations qui occupent l'espace, une sorte d'espace intermédiaire entre les pouvoirs publics élus et de la haute administration, et puis les citoyens. D'abord, est-ce qu'on considère que ce sont des lieux de démocratie participative, ou au contraire, ça peut être parfois des sources de résistance ou qui considèrent que la représentation, enfin la participation directe des citoyens peut être une concurrence. Comment vous voyez cette place des corps constitués ou des corps intermédiaires dans l'histoire ?
Moi, j'aime pas trop la notion de corps intermédiaire parce que on place déjà un haut et un bas, avec des décideurs et des décidés, finalement. Mais je pense que les associations et les syndicats sont tout à fait essentiels à une vie démocratique. Le problème qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a une professionnalisation de ces organisations-là et un détachement d'un certain nombre de personnes dont elles sont censées représenter les intérêts, les droits et les envies. Et finalement, un certain nombre d'associations se sont mis à distance, y compris dans les associations qu'on appelle d'éducation populaire, où quand on regarde leurs conseils d'administration peuvent être plutôt vieux et masculins, alors que le public peut être jeune et féminin, par exemple. Aujourd'hui, je trouve que le défi, il n'est pas uniquement du côté du pouvoir public, il est aussi du côté de ces organisations-là, pour qu'elles puissent rassembler la diversité du corps social, bien qu'il soit beaucoup plus fragmenté qu'avant. Pour les syndicats, il n'y a plus les grandes usines comme Renault à Boulogne-Billancourt. On est sur des petites unités de production, on est avec des intérimaires, on est avec des personnes qui se retrouvent aussi dans des cycles de chômage et d'emploi.
Donc c'est plus dur d'être représentatif de toute cette diversité, en fait. C'est plus dur qu'avant d'être représentatif.
Oui, c'est plus difficile, ouais. Mais ça l'est pas plus qu'au début du 19e siècle. Ça l'est plus qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand on se retrouvait dans un système d'industrie de masse. Mais au début du 19e siècle, quand les syndicats, à la fin du 19e siècle, quand les syndicats ont été légalisés, ils se retrouvaient aussi dans cette position. C'est parce que des militants se sont coltinés le travail long et lent de relations et d'organisations collectives qu'ils ont réussi à créer une forme de légitimité. Aujourd'hui, ce n'est pas le statut juridique qui doit déterminer la légitimité. Faut pas s'asseoir sur le passé. Faut se mettre en situation de retrouver des relations avec des personnes qui ont été marginalisées, y compris par ceux que vous appelez les corps intermédiaires.
J'ai compris. Ok, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre sur la question notamment des pouvoirs publics. Merci Manu. Là, on écoute pour le moment le nouvel album de The Good, The Bad and The Queen. La chanson s'appelle Gun to the Head.
So don't trespass over the line on the map. Commissioners for oaths in the borough of Banbury require the owners of rowdy dogs to keep them on their leads. We don't care, cause we're all animal lovers. We like to share our lives with them. Required of this song is a case for love, when everything else that keeps us together conspiring to tear us. At the point where the sky and the earth touch is the head of the to tear us apart.
Vous êtes sur Radio Campus, c'est La Fabrique Politique. L'émission du jour est consacrée à la place des citoyennes et des citoyens dans la vie publique, la place qu'on leur fait, la place qu'ils prennent et tous les obstacles sur leur chemin. Manu Bodinier, fondateur de l'association Equitas, nous accompagne. Alors Manu, on va s'attaquer maintenant à la place des autorités publiques, des institutions démocratiquement élues et de leurs dirigeants dans nos enjeux de démocratie participative. On l'a vu déjà tout à l'heure, qu'elles ont évidemment une place importante, tout comme les syndicats, les associations. Je propose de commencer par le verre à moitié plein. La démocratie participative avec l'État, les régions, les départements, les communes, j'imagine que ça existe déjà aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples à donner aux auditeurs, aux auditrices, pour illustrer ce que ça peut vouloir dire pour une, vous en parliez tout à l'heure, hein, pour une institution élue, de changer ses pratiques et d'intégrer cette dimension-là?
Alors, ce qui existe aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la démocratie participative en entier. Ce qui existe, c'est des mécanismes de participation qui sont intégrés par les autorités. Donc, parmi ces mécanismes les plus connus, il y a des instances qui associent du coup les habitants ou des citoyens à des décisions ou à une consultation sur un certain nombre de sujets. Les conseils de quartier étaient dans les premières de ces instances légalement intégrées dans notre système de démocratie représentative, mais on trouve aussi des instances un peu plus larges, le Conseil économique et social régional et national. On trouve des instances plus ponctuelles qui sont liées à des questions thématiques comme le transport ou l'agriculture. Et à côté de ça, de nouveaux mécanismes, enfin, nouveaux entre guillemets, ont été institués, comme le budget participatif qui se développe de plus en plus sur les questions d'investissement pour que les citoyens puissent proposer et décider là où peut aller une part du budget d'investissement, notamment pour des communes. Mmh. Et puis, ce qui a été innové à Grenoble, c'est de proposer aussi des mécanismes de votation institutionnelle où des citoyens peuvent pétitionner pour inscrire de manière légale des sujets à l'ordre du jour, voire imposer leurs propres projets à des élus démocratiquement élus.
D'accord. Et donc, effectivement, ce que vous dites, c'est des exemples, vous disiez vous-même, c'est des bouts de démocratie participative. C'est pas forcément tout et tout ce qu'on pourrait faire. Pourquoi on a le sentiment que ça reste relativement éparse et par petits bouts? À votre avis, les obstacles, ils sont de quelle nature dans les institutions?
Il y a des obstacles dans les institutions, puis il y a des obstacles dans la culture politique de la population française.
Des citoyens eux-mêmes, vous voulez dire ?
Le premier obstacle, une première série d'obstacles, c'est quand même une forte centralisation du pouvoir en France du côté des institutions. En France, on a du mal à imaginer, par exemple, que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif soit séparé au niveau local, c'est-à-dire que le maire est à la fois préside le conseil municipal et responsable de l'administration et de l'exécution des décisions. Donc en fait, il est juge et partie.
Il fait les lois et il les exécute.
Complètement.
En fait.
Voilà, ce qu'on n'a pas complètement au niveau national, et c'est un Français, Montesquieu, qui avait théorisé la nécessité de l'équilibre des pouvoirs, mais au niveau local, du coup, on a une fausse démocratie, entre guillemets, qui contraint très fortement la participation des citoyens, puisque une fois tous les 6 ans, on élit une équipe qui monopolise le conseil municipal et qui est responsable de l'exécution de ses décisions. Donc la place de l'opposition et des oppositions diverses, donc il y a l'opposition élue qui a un tout petit peu de pouvoir, mais l'opposition, entre guillemets, ou la proposition des citoyens, elle n'est pas institutionnellement possible. Et aujourd'hui, le système qui a été trouvé pour les quelques municipalités qui s'essayent à donner la parole à des citoyens en conseil municipal, c'est de suspendre le conseil municipal, de leur donner la parole, de reprendre le conseil municipal. Et donc il y a une espèce de mécanisme formel, mais on est dans le jeu de dupes, hein, pour donner la parole, y compris à une directrice d'hôpital, y compris à un directeur de musée ou à un citoyen lambda pour porter une question que se posent les citoyens.
Ça suppose, donc, ça voudrait dire qu'en fait, pour y arriver, il faudrait carrément faire bouger les institutions dans leurs règles de fonctionnement, c'est-à-dire un cadre législatif, voire même un cadre constitutionnel.
Oui, enfin, moi je pense que, en tout cas, je ne sais pas s'il y a besoin de bouger la Constitution pour transformer la manière dont les collectivités locales sont gouvernées, mais faudrait au moins bouger cette question-là si on voulait être sérieux et que l'ensemble de l'organisation soit configurée pour laisser plus de place aux citoyens. À côté de ça, il y a aussi des obstacles du côté des citoyens, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une culture, en tout cas politique, qui génère ses propres inégalités. Les institutions ne sont pas responsables non plus du fait que certains citoyens se complaisent dans la monopolisation de la parole. C'est des mécanismes qu'on retrouve souvent chez des élus sincèrement intéressés par la démocratie participative, c'est de dire, mais finalement, on voit toujours les mêmes. On voit des gens qui ont du temps, parce que on a plus de temps quand on est à la retraite que quand on est au travail avec des jeunes enfants ou que on est au chômage à devoir trimer pour essayer de trouver un travail, mais on est aussi dans une culture politique qui laisse un peu moins la parole publique aux femmes qu'aux hommes.
Oui, il y a des travers presque sociaux, sociologiques, démographiques.
Ouais. Voilà. Et là-dessus, il y a besoin de lieux d'éducation politique, le Parlement libre n'étant que un parmi beaucoup d'autres, pour que les citoyens se sentent légitimes à prendre la parole quand il existe des espaces pour qu'elle soit entendue.
On reviendra là-dessus, effectivement, sur la question tout à l'heure, on évoquera la question des invisibles, entre guillemets, ceux qui participent jamais. Avant ça, j'avais aussi un autre obstacle en tête, éventuellement, vous me direz. C'est une question plus technique. J'imagine que la participation, les démarches participatives, ça ne s'improvise pas. Il faut des savoir-faire, des compétences, des méthodes pour y arriver, pour ne pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Peut-être que c'est ça aussi un obstacle dans les collectivités, les institutions.
Pour partie. C'est vrai qu'il y a une formation des fonctionnaires qui est aujourd'hui plutôt à prendre un problème et à proposer des solutions par eux-mêmes plutôt que de s'adresser aux citoyens pour voir comment co-construire des solutions. Et donc, vous avez raison, cette dimension-là ne doit pas être oubliée et ça engage une formation un peu plus large sur la manière dont on peut gouverner d'un point de vue technique un pays. Mais pour moi, ça engage aussi une posture au-delà de la technique. Comment est-ce que on sécurise les peurs de part et d'autre, la peur d'être instrumentalisé d'un côté, mais la peur aussi de beaucoup de gouvernants de perdre du pouvoir, de perdre de la légitimité et finalement que ça n'avance pas et qu'on fasse de la réunionnite. Ces peurs-là doivent elles aussi être entendues pour être dépassées.
Par exemple, le fait d'avoir peur d'être manipulé, effectivement, on l'entend souvent, de dire finalement la participation, la démocratie participative, c'est quelque chose que des élus ou des dirigeants vont utiliser et détourner pour leurs propres intérêts. C'est vrai qu'on entend cette critique régulièrement. Comment on fait pour dépasser ça et cette peur-là?
Ça dépend avec quel dirigeant, parce que des fois, elle est réellement légitime. La démocratie participative ou des instances de participation peuvent véritablement être
ça arrive, vous avez déjà vu
des cache-sexe. Bien sûr, c'est même le cas le plus fréquent, c'est-à-dire que c'est obligatoire par exemple d'avoir des conseils de quartier depuis la loi Vaillant, donc finalement on le fait pour la forme, pour occuper aussi et de les ambitions de ceux qui parlent, mais par ailleurs, on continue de prendre les décisions sans consultation. C'est aussi pour des grosses questions techniques ou très politiques, mais une manière de masquer un débat. Je pense notamment aux assises qu'il y a eu sur l'énergie, où une grande partie des choix avaient déjà été réalisés et finalement où le débat du point de vue même des ONG, a été tronqué. Donc je pense que ces peurs-là sont fondées aussi pour une part, mais quand elles ne le sont pas, comment est-ce que on se préserve de l'autonomie et comment est-ce qu'on clarifie les règles de en amont, les règles de qui va décider à la fin. Il faut pouvoir savoir au début du processus qui va prendre la décision et sur quelle base. Est-ce qu'on est juste associé et on donne son avis ou est-ce qu'on co-décide et on va être engagé dans la décision. Aujourd'hui, la plupart des responsables politiques sont très frileux. Donc, ils demandent des avis, mais ils ne demandent pas, ils ne s'engagent pas à une co-décision.
Et ils ne sont pas forcément hyper clairs sur ce point. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire que c'est une co-décision, alors qu'en réalité, ils ne seront que sur un avis. Donc, il y a une question de transparence, finalement, dans le processus et dans ce qu'on propose.
Sur les règles du jeu. Ouais. Et là-dessus, créer une commission extra-municipale où il y a 10 citoyens et 10 élus qui vont co-décider et où chaque personne a une voix, c'est absolument pas le même processus d'un groupe de citoyens qui peuvent remettre des propositions et les élus vont piocher celles qu'ils souhaitent garder, celles qu'ils ne souhaitent pas garder. Voilà. Donc ce niveau d'engagement-là, aujourd'hui, est très rare. Nous, on l'a rencontré qu'une fois dans notre expérience, mais ça ne veut pas dire qu'il existe pas du tout, mais je pense que c'est là où on devrait développer la démocratie participative pour véritablement transformer des institutions et la manière dont on est gouverné.
Entendu. Merci. On va faire une nouvelle pause, cette fois avec un morceau de Fela Kuti qui s'appelle « Water No Get Enemy ». Enfin, ce sera plutôt une partie du morceau car en vrai, il est très 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 long. Et puis, on se retrouve juste après.
Thank you.
bien sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique politique. Nous sommes en compagnie de Manu Bodinier de l'association Equitas et on décrypte ensemble les rouages de la démocratie participative. Manu, j'aimerais qu'on zoome maintenant sur un enjeu particulier qui est la question de la participation à la vie publique des personnes en situation de difficulté ou de marginalité sociale. On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais on sait qu'il est plutôt facile pour un citoyen ou une citoyenne à l'aise économiquement et qui a du temps, comme on parlait des retraités tout à l'heure, de se sentir appartenir au monde commun et de trouver des canaux pour s'y exprimer, voire de saturer les canaux qui sont disponibles. À l'inverse, on parle souvent d'un peuple d'invisibles, de femmes et d'hommes écrasés par la machine économique, relégués aux confins de la société. Et ceux-là ne semblent jamais disposer d'un espace pour s'exprimer, pour partager leurs idées, leurs analyses, leurs expertises, et donc finalement jamais pouvoir influer et prendre part au contrat social. D'abord, je voudrais évoquer un point très simple. Le fait de galérer dans la vie tous les jours, est-ce que ça empêche d'avoir envie et d'être capable de participer ?
Je voulais juste revenir sur un point. Tous les retraités
ne sont pas
en situation économique très favorable. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre pour lesquels la retraite, comme elle est proportionnelle au salaire, se retrouve dans cette situation-là. Oui, pour revenir à votre question, le fait de galérer dans sa vie, ça empêche d'avoir une confiance dans l'organisation sociale et dans le fait de se sentir légitime pour intervenir. Et aujourd'hui, il y a un problème de temps, c'est-à-dire quand on cherche à boucler les fins de mois, on a d'autres préoccupations que celle de se poser la question des règles du jeu collective, de la décision publique, etc. Deux, il y a un problème de moyens. C'est-à-dire que si vous devez faire garder vos enfants, si vous devez vous déplacer en centre-ville, c'est pas exactement la même chose que quand vous habitez juste à côté d'une mairie ou d'un conseil régional. Et troisièmement, il y a un problème de légitimité politique. Certaines personnes ne se sentent pas habilitées à délibérer sur le bien commun, ne se sentent pas avoir les bons mots, les bons codes, la bonne manière de s'exprimer, et on n'est pas prêt à les accueillir de cette manière-là. Comment est-ce que le témoignage, comment est-ce qu'un coup de gueule, comment est-ce que une manière d'exprimer ce que l'on vit pour que ce soit pris en compte peut se retrouver influencé au final une décision publique. Mmh. Aujourd'hui, c'est tellement rare que les personnes n'essayent même pas.
Il y a une forme d'autocensure, vous voulez dire ?
C'est un des facteurs. Je dis pas que c'est le seul, mais quand on a déjà essayé une fois de s'exprimer, soit parce qu'on est allé dans une réunion publique, soit parce qu'on allait rencontrer un élu, soit parce que même des fois on est allé dans un conseil de quartier et que ça n'a rien donné, finalement on ne revient pas. On se dit que c'est pas pour nous et on reste éloigné de cette démocratie, ce qui a des effets très importants hein, par ailleurs sur les décisions publiques.
Mais je reviens à ma question, ça n'empêche pas d'en avoir ni l'envie ni les capacités.
Ça n'empêche pas d'avoir l'envie de contribuer et d'être pris en compte, mais ça empêche le fait de le réaliser effectivement. Mmh. C'est-à-dire que c'est une envie qui est censurée. Mmh. Et derrière, il y a une adaptation des comportements et de l'envie qui fait que on se retrouve au final à ne plus savoir si c'est bien. On n'a pas envie en fait d'être censuré. Mmh. On a envie d'être pris en compte.
Voilà, c'est
donc il y a l'envie d'être pris en compte, mais il n'y a pas forcément l'envie de se retrouver pendant une heure et demie dans une réunion où on va rien comprendre et on va avoir le sentiment d'avoir pas influencer le résultat de la décision. Je pense que c'est là où nous, on travaille dans Equitas, c'est d'essayer de réveiller un peu cette envie-là et de faire bouger les formes pour que des personnes qui d'habitude ne parlent pas ou n'osent pas parler, ou ne sont pas entendues, puissent le faire.
Et justement, alors sur ces questions de forme particulière que doit prendre doivent prendre les instances de participation pour que ça réveille effectivement ses envies. Et voilà. Je me demandais quelle forme ça pouvait prendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, l'exemple des groupes de chômeurs que vous animez, quelle forme particulière ça a par rapport à cette fameuse réunion classique que vous avez évoquée tout à l'heure où on peut se retrouver pendant 2 heures à rien comprendre et à ne pas se sentir à sa place. Ça prend quelle forme finalement ?
En amont de la forme d'animation, Il y a la question de la relation. Est-ce que la personne, on la reconnaît comme personne ou est-ce qu'on la regarde que comme un usager, que comme un habitant de son quartier ? Mmh. Si on crée une relation avec Raimundo, avec Annick, avec Karine, je pense à des personnes précises là qui participent au collectif de chômeurs ou au Parlement d'une des jeunes, ces personnes-là, du coup, ont envie de revenir parce que si elles sont présentes et si elles sont pas présentes, ça fait une différence pour le groupe. Et leur histoire peut influencer celle du groupe. Mmh. Ça dépend pas de la forme, ça dépend de l'attention qu'on a à chacun et à chacune. Ensuite, dans la forme, on a des méthodes d'animation très inclusives, donc qui sont fondées sur une attention, enfin, à ce que chacun puisse parler. Moi, j'essaye dans toutes les réunions que les personnes aient la parole au bout de 10 minutes. C'est-à-dire que il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas une explication de texte avant de donner la parole. Même quand on est 100, au bout de 10 minutes, faut que les personnes puissent parler. C'est-à-dire qu'on parle quand même 10 minutes avant, mais pour fixer pour proposer des règles du jeu, pour donner le cadre, pour donner des objectifs, vérifier qu'on est dans la bonne situation. Mais tout de suite, fonctionner en petit groupe, rencontrer une personne qu'on connaît pas et y mettre ce que nous on appelle de la poésie, c'est-à-dire convoquer la beauté. Un vers d'Aimé Césaire dit « La justice écoute aux portes de la beauté ». Et en fait, quand on se met à réfléchir à partir d'une métaphore, à partir d'un poème, d'un conte, d'une pièce de théâtre, finalement, on va inclure d'autres manières de participer que celles qui sont apprises à l'école avec du raisonnement, des arguments et des mots autorisés. Voilà, c'est quelques pistes pour vous indiquer la manière dont
qu'on touche un peu du doigt la façon dont ça se passe. Je reviens à une question presque qu'on aurait pu se poser au début, c'est finalement, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de démarche de participation, et notamment avec ces personnes qu'on n'a pas l'habitude de croiser sur les chemins de la démocratie classique et même de la démocratie participative classique ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça ? En quoi on pourrait dire que c'est nécessaire pour vous, pour la République, pour la démocratie ?
Pour moi, c'est nécessaire pour diminuer la violence dans notre société. Aujourd'hui, les rapports entre les personnes et entre les institutions et les personnes sont de plus en plus violents. Et la manière dont on peut diminuer cette violence, qui n'est pas qu'une violence sociale, on voit ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes, mais aussi ce que eux vivent et subissent dans leur propre vie en ayant l'impression de ne pas avoir prise, et la plupart du temps, ce n'est pas qu'une impression, c'est que les décisions sont prises sans eux. Et finalement, cette violence-là, un jour, elle se retourne contre les représentants des institutions. Et si on veut diminuer cette violence, il n'y a pas 36 méthodes. Il y a la parole et la manière dont on peut décider ensemble de manière concertée. Aujourd'hui, il y a un vrai problème du pouvoir au plus haut niveau de la République, mais finalement, ce n'est que la partie immergée émergée de l'iceberg. On a du mal à écouter un certain nombre de personnes et à les prendre en compte dans les décisions et dans leur application, et on en paye le prix. Je trouve que c'est le bénéfice principal dont on a besoin pour ne pas se battre les uns contre les autres, mais plutôt essayer d'avancer et développer une forme de solidarité dans une société qui en a pas mal besoin.
Et d'ailleurs, en introduction, j'évoquais le fait que, parallèlement à ce développement de la démocratie participative, on entend finalement de l'analyse presque dans les mêmes bouches sur le fossé entre le peuple et l'élite, sur la désaffection pour le vote ou pour la chose publique. Finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est que c'est là que ça se joue, la capacité à combler ce fossé et à essayer de faire en sorte que se rapprochent ceux qui aujourd'hui semblent être ceux qui décident et ceux qui aujourd'hui semblent être, en tout cas avoir le sentiment de ne plus être associés à rien.
Ouais, Moi, je pense qu'il n'y a pas un seul fossé et qu'il n'y a pas une seule élite. Il y a une multitude de fossés qui sont creusés au sein de ce qui pourrait être un peuple, mais qui a peu le sentiment de le vivre comme ça, et qui sont creusés aussi entre ceux qui sont gouvernants. On voit la désaffection des maires et leur désarroi face à des décisions qui leur sont imposées. On voit aujourd'hui la difficulté que des responsables associatifs ou syndicaux ont à pouvoir se faire entendre et se faire prendre en compte. Et je pense que c'est une rénovation générale des conditions de dialogue dans notre société dont on a besoin. On a besoin de partager véritablement le pouvoir dans des instances de décision et accueillir des personnes qui n'ont pas le profil habituel de ceux qui ont réussi une scolarité brillante.
J'avais une dernière question pour faire un pas de côté par rapport à la politique publique en tant que telle, parce que les uns les autres, on vit aussi dans des organisations privées, des entreprises, des associations par exemple, dans lesquelles se posent aussi des questions de gouvernance, de démocratie interne, j'allais dire. Je voulais juste savoir ce que ça vous inspire. Est-ce que vous pensez également que les fossés dont vous parlez, ils sont dans les entreprises par exemple, et que celles-ci devraient faire un effort dans la démocratie participative en interne ou dans ces capacités de dialogue que vous évoquez? Est-ce que vous pensez que ça touche aussi ce type d'organisation-là?
Paradoxalement, un certain nombre d'entreprises ont aussi beaucoup avancé. La seule interrogation que j'ai, c'est qu'elles discutent d'une multitude de sujets, mais pas finalement leur finalité réelle. C'est-à-dire que le fait qu'un certain nombre de grandes entreprises aient formaté leur organisation pour avoir des taux de rendement pour les actionnaires, ce genre de point est moins discuté. Donc je trouve que certains nombres d'entreprises se sont vraiment développées pour laisser plus de place à leurs agents ou aux salariés qui les composent. C'est rarement une manière aussi d'impacter les conseils d'administration. Donc je trouve qu'il y a des paradoxes à plusieurs endroits. D'un côté, des institutions publiques qui vont lentement dans le sens d'un plus grand dialogue en interne, mais qui, pour le coup, ont une vocation à délibérer sur leur finalité, puisqu'il y a des débats publics réguliers sur les orientations politiques de ces institutions. De l'autre côté, des organisations privées qui ont peut-être plus d'expérience du côté du dialogue en interne et avec leurs relations clients, comme on dit du côté des entreprises, la relation habitant du côté des associations. Mais à l'inverse, mettre moins en cause la finalité pour laquelle ils ont été créés.
C'est très clair. Bah, merci beaucoup, Manu Bodinier, de tous ces éclairages. On va devoir s'en tenir là pour aujourd'hui. Merci.
Merci à vous pour votre invitation.
Avec plaisir. Et pour nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve dans un instant pour la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Et avant cela, une troisième et dernière pause musicale avec La Famille Tellier, une chanson, j'allais dire, labellisée Fabrique Politique, qui s'appelle La Peste.
La peste est de retour chez nous, il faut brûler la ville. La mort à l'heure. Barricadez vos filles. La peste est de retour chez nous. Je vous salue, Marie. J'ai confié mes clés à un fou sans garder de copie. La peste ici, que peut-il arriver de pire? Partout son goût dans l'eau des puits, dans l'air que l'on respire. La peste au loin, je rêve d'un bain dans le soleil couchant. Et même l'enfer doit être bien si loin de tous ces gens. prochain comme toi-même. Aime-le de loin. Aime ton prochain comme toi-même. Aime-le de loin. Cette blessure nous, tous les joueurs de pipeau du monde, n'empêcheront pas que les rats grouillent au milieu des décombres. Nos pères succombent au sein d'un monde quand leur cœur ils détestent. D'autres s'emploient tant bien que mal à survivre à la peste. Aime ton prochain comme toi-même. Mais aime-le de loin.
C'est toujours la Fabrique politique sur Campus Grenoble 90.8 et c'est l'heure de la chronique pendant ce temps à Veracruz. Alors autour de la question de la démocratie participative, j'ai déniché un article d'août 2016 à propos d'un événement qui se passait à New York. Alors vous allez voir, c'est rempli d'un jargon extrêmement technico-numérico-moderniste qui m'a un peu amusé. Ça s'appelle un hackathon OGP Toolbox à New York le 21 septembre avec le City Hall. Le 21 septembre prochain, dit l'article, le Civic Hall de New York organise un hackathon pour travailler sur la boîte à outils du gouvernement ouvert. Le 20 septembre, l'Afrique du Sud passera en effet le relais à la France pour la présidence du Partenariat pour un gouvernement ouvert à l'occasion d'une cérémonie rassemblant chefs d'État et sociétés civiles en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui célébrera également les 5 ans du partenariat. Le lendemain, les agents d'administration française et américaine, représentant la société civile, entreprises, start-up et membres de la communauté Civic Tech, seront mobilisés pour contribuer à la mise en œuvre concrète des principes et engagements du gouvernement ouvert. Cette boîte à outils vise à faciliter la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du gouvernement ouvert, en référençant les solutions disponibles et en documentant les usages. L'événement new-yorkais, organisé de 9h à 20h30, sera l'occasion de présenter la boîte à outils et de recueillir les contributions de l'administration américaine et de l'écosystème local. Créé en 2015, le Civic Hall new-yorkais est un espace ouvert et contributif dédié aux innovations citoyennes ou aux innovateurs, aux entrepreneurs sociaux, agents publics, journalistes et universitaires, tous ces beaux mondes échangent et développent conjointement des projets d'intérêt général. Cet événement fait partie d'une série de sprints et d'événements contributifs qui mèneront au lancement de la boîte à outils lors du sommet mondial du PGO. Donc le PGO, c'est le Partenariat pour un gouvernement ouvert, qui aura lieu à Paris en décembre 2016. Cette plateforme fournira un catalogue agrémenté de cas d'usage de solutions d'Open Government, portail d'Open Data, plateforme de consultation citoyenne, outil de suivi et d'élaboration collaborative de la loi, forum, plateforme d'évaluation des plans d'action nationaux. Lors de ces sprints, les participants renseignent leurs outils via une interface de saisie, documentent et actualisent les solutions recensées et améliorent de façon collaborative les logiciels et services numériques. Les précédents événements ont déjà permis de moissonner des catalogues, d'imaginer des réutilisations de la base de données et de travailler sur le packaging des logiciels pour en faciliter l'utilisation automatique et de faire un benchmark des UI/UX, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, les plus adaptés à la plateforme. Ces réunions sont aussi l'occasion de collaborer et de mutualiser des efforts avec des initiatives internationales similaires telles que le Wiki de Nuit Debout, la plateforme Civic Stack de Democracia, la plateforme Participate DB d'Intellectics, le Civic Graph de Microsoft. Ouh, je vais arrêter là, j'en peux plus. Donc, non, c'était pour illustrer le fait que ben voilà, le monde des nouvelles technologies s'intéresse aussi à cette question de démocratie participative. On sent bien que là, les obstacles à l'accès à tout ça sont nombreux et très contrastés par rapport aux enjeux politiques, poétiques et humains qu'évoquait Manu Bodinier tout à l'heure. C'est la fin de cette émission. Merci encore à Manu Bodinier. Merci à vous d'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de faire un tour sur le site de Radio Campus pour retrouver le podcast et toutes les autres émissions. À bientôt pour un nouvel épisode.